Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne, il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans pitié, il y a les femmes seules et les prisonniers, il y a les infirmières et les gars du chantier, il y a les ouf, les oives, les toqués toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Je vous rappelle que cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous faire entendre, ou réentendre pour ceux qui étaient présents, la conférence que la section locale de la Ligue des droits de l'homme avait organisée le 10 avril dernier au lycée Raymond Savignac. Le sujet, histoire des luttes pour les droits des femmes au XXe siècle. Camille Favre, jeune professeure et doctorante en histoire des femmes, a captivé un auditoire nombreux composé de lycéens et d'adultes. Émaillée d'anecdotes très vivantes, son intervention nous a rappelé que les droits ne sont jamais acquis d'avance, qu'il faut se battre, mais surtout qu'on peut avancer. Il faut aussi exercer toujours la plus grande vigilance pour éviter les tentations de retour en arrière. Je vous laisse en compagnie de Camille Favre. Écoutez bien, cela vaut la peine.
Alors, cette soirée, c'est un petit peu l'occasion idéale de dresser le bilan des progrès accomplis en vue de promouvoir l'égalité des femmes. C'est aussi l'occasion d'identifier les difficultés que les femmes doivent surmonter dans la société et de se pencher sur les moyens pour améliorer la condition des femmes. Alors, avant de me lancer véritablement dans la conférence, je vais revenir un petit peu sur un terme. C'est le mot « féminisme ». C'est un mot, encore aujourd'hui, qui fait très peur. On n'ose pas se réclamer du féminisme. Et j'aimerais un petit peu vous raconter l'histoire de ce mot. On pense que ce mot, il naît dans les années 70, notamment avec le MLF, le mouvement de libération des femmes dont on va longuement parler. Mais le mot naît bien avant. Il naît en 1872. Et au départ, et je trouve la petite anecdote assez amusante, ce mot, il sert à désigner des hommes peu virils. Voilà. Et c'est des femmes qui vont réclamer le droit de vote en 1882, qui vont commencer à s'autoproclamer féministes. Alors, plusieurs choses. Il faut distinguer le féminisme comme théorie politique. C'est-à-dire, on essaie de mettre en place des lois, etc., pour œuvrer vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a aussi les féministes, qui peuvent être hommes ou femmes, des individus. Et puis, il y a le mouvement féministe qui regroupe des associations, des courants qui parfois sont opposés, différents, et qui essaient de travailler tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'on parle en France de féminisme au pluriel, tout comme on parle des femmes au pluriel, parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Voilà. Alors, le terme sexisme, lui, il va plutôt apparaître dans les années 70, et c'est dans l'éducation nationale qu'il apparaît, notamment vers les années 1975, où certains enseignants, syndicats, etc., œuvrent pour la mixité dans les écoles. Puisque ça, j'y reviendrai, avant, les filles et les garçons étaient séparés dans les écoles, et c'est que depuis 1975 que vous pouvez être mélangés. Alors, Au niveau de l'histoire et des luttes féministes, on distingue plusieurs courants et on parle de vagues. La première vague, c'est de 1900 à 1930 et c'est une vague qui va plutôt se concentrer sur la conquête des droits civiques, c'est-à-dire le droit de vote, le droit au divorce et un petit peu l'éducation, le travail et vraiment, mais de très très loin, les questions de contraception. Vient ensuite l'ouvrage fondateur de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, sur lequel je reviendrai aussi. Puis vient la deuxième vague de 1960 jusqu'aux années 90. Et là, c'est plutôt les questions du corps, de la contraception, de l'avortement, et aussi la reconnaissance des femmes dans la société. Et depuis les années 90, on en serait donc à la troisième vague. Voilà. Alors, ces histoires de vagues et de marées, hein, finalement, de métaphores marines, des fois, c'est pas très pertinent ou opérateur pour rendre compte des continuités ou des ruptures. Mais c'est ce qu'on utilise généralement en histoire des femmes. Alors, la première vague féministe, 1900-1939. Avant de vous expliquer, il faut que je vous plante un petit peu le décor. Il faut savoir que les femmes, tout le long du 19e siècle, ont été enfermées dans quelque chose qui s'appelle le Code civil, qui a été mis en place par Napoléon. Et ce Code civil, il dit par exemple, on doit apprendre à la femme qu'en sortant de la tutelle de son père, elle passe sous la tutelle de son mari. Voilà. Une autre formule un petit peu moins élégante, la femme appartient à son mari comme l'arbre fruitier appartient au jardinier. Voilà. Alors, 19e siècle, on a une idée qui prédomine tout pour les femmes. Cette idée, c'est « tota mulher in utero ». Toute la femme est dans l'utérus. Et donc, on part du principe que les femmes sont des éternelles malades, entre leurs règles, les grossesses, etc. Et donc, on justifie leur infériorité ainsi. Tout doucement, à partir de 1900, ces modèles-là vont un petit peu se brouiller. Et on va voir apparaître certaines féministes qu'on appelle les suffragettes ou les suffragistes. En France, à cette époque-là, on utilise les deux et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est difficile de trouver un moment fondateur. On va dire que la première manifestation féministe, c'est le 14 juillet 1881. Et cette manifestation s'intitule « L'enterrement des droits des femmes ». Et en fait, les femmes, pendant cette manifestation, vont brûler le code civil qui les opprime. Alors, on a deux grands courants. Le premier, qui est le Conseil national des femmes françaises, est plutôt un courant réformiste. Elles partent de l'idée d'un postulat d'un éternel féminin. Et parce que les femmes sont des mères, elles auraient certaines qualités physiques, psychiques et sociales. L'autre courant, plutôt égalitariste et beaucoup plus radical, est l'Union française pour le suffrage des femmes. Et elle se fonde sur l'humain tout court. Au niveau des questions, des revendications, les premières revendications touchent le droit. En effet, le droit au divorce, cela va toucher évidemment le droit de vote, hein, puisqu'il faut savoir qu'en France, le suffrage universel est en place depuis 1848, mais c'est un suffrage universel qui oublie 52% de la population quand même. Donc au bout d'un moment, ça commence à énerver, donc on en est à beaucoup d'actions pour le droit de vote. Elles vont aussi s'intéresser aux questions du travail, avec cette formule « à travail égal, salaire égal ». On y reviendra dessus. On y est toujours, hein ? Alors, cette conquête du droit de vote, elle va être très lente. Les Français sont persuadés qu'après la Première Guerre mondiale, pour les récompenser de leur effort de guerre, elles vont obtenir le droit de vote. Eh bien non. Ça va durer très très longtemps et il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale. Alors que depuis 1919, le pape de l'époque, a autorisé à donner son accord pour que les femmes aient le droit de vote. Sauf que le Sénat, à l'époque, bloque systématiquement les lois. Il va y avoir aussi des revendications d'un point de vue pédagogique pour que les filles puissent aller à l'école. Et pour les questions du corps, notamment les contrôles des naissances, la contraception, etc., c'est des revendications assez lointaines et plutôt d'une minorité. Au niveau des méthodes et des moyens d'action de ces suffragettes, contrairement aux Anglaises, elles sont, les Françaises, hein, sont beaucoup moins radicales. En effet, les suffragettes anglaises incendient des églises, cassent des vitrines, ravagent des bureaux de vote, etc. Les Françaises, elles, préfèrent l'expression démocratique. Et c'est pour ça que les Françaises s'appellent plutôt les suffragistes, parce qu'elles veulent se distinguer des Américaines et des Anglaises beaucoup plus radicales. Alors, au niveau de ces moyens d'action, ça va être des tracts, des pétitions, des conférences, des réunions, des défilés, des manifestations. Je vais vous donner quelques petits exemples, comme ça, d'actions menées par ces suffragettes. Alors, on a deux grandes féministes, Hubertine Auclert et Madeleine Pelletier, c'est les plus radicales hein, chez les Françaises, qui vont, par exemple, refuser de payer leurs impôts tant qu'elles n'auront pas eu le droit de vote. On ne va pas cotiser pour un État qui ne nous reconnaît pas en tant que citoyenne. Et ça va durer assez longtemps. Madeleine Pelletier, par exemple, porte le pantalon tous les jours, alors que c'est interdit. Hein, faut savoir que c'est l'année dernière qu'elle a été abrogée, cette loi. Mais jusqu'à l'année dernière, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Donc on était toutes illégales jusqu'à l'année dernière. Voilà, c'était une vieille loi qu'on avait oublié de supprimer. Elles vont très vite utiliser aussi, on va dire, les nouvelles technologies. On est au début de la voiture, donc elles s'emparent de ces voitures-là pour faire des défilés et des manifestations. Et évidemment, ça choque, parce qu'une femme qui conduit en 1910, c'est pas courant. Alors, dans les actions les plus radicales, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'elles vont saccager ou détruire les urnes lors d'élections, puisque pour elles, ces urnes-là ne comportent que des bulletins masculins. Donc le vote est nul. On va avoir une Toulousaine qui va faire ça. Elle s'appelle Ariali et elle va comme ça saccager le bureau de vote de Saint-Cyprien. Quelques années plus tard, elle va se présenter à la municipale de Toulouse. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle va avoir 511 voix alors que les femmes ne sont ni électrices ni éligibles. Alors, toujours dans ces moyens d'action, à partir de 1920-1929, elles commencent vraiment à se radicaliser. Et, par exemple, elles vont s'enchaîner aux grilles du Luxembourg, avec, évidemment, quelques petites arrestations. Une des dernières actions un peu coup de poing, c'est celle-ci. C'est le Grand Prix de Longchamp, c'est une course de chevaux, où se rendent, on va dire, la bourgeoisie de l'époque, et notamment certains députés. Elles vont envahir la pelouse et empêcher ce départ. Alors, il faudra attendre 1936 pour que trois femmes accèdent au gouvernement du Front populaire. Alors, notamment, ça, vous l'avez au programme pour les élèves. Hein. Alors, ces trois femmes, ce sont Irène Juliot-Curie, qui est nommée secrétaire d'État à la recherche scientifique, Suzanne Lacor, qui est nommée secrétaire d'État à la protection de l'enfance, et Cécile Brunchoui, qui est nommée secrétaire d'État à l'éducation nationale. Et là, on a une sorte de paradoxe français, puisque, une fois de plus, elles se retrouvent au gouvernement alors qu'elles ne sont ni électrices ni éligibles. Voilà. Au niveau des soutiens des partis politiques, les partis politiques soutiennent bien hein, les féministes et les suffragettes. Mais c'est des soutiens de loin. Les libéraux, on va dire la droite, C'est plutôt pour la question du droit de vote, parce qu'ils s'imaginent que les femmes vont voter comme leurs maris, donc ils auront des voix. La gauche, c'est-à-dire les socialistes, c'est plutôt pour les questions de travail et d'éducation. Et enfin, les anarchistes, parce qu'on est encore dans une France où on a des courants anarchistes, c'est plutôt pour les questions de contraception. Pourquoi des soutiens de loin ? Parce qu'à l'époque, en France, on a quand même un pays très misogyne et très antiféministe. Regardez le type d'illustration que l'on peut trouver à l'époque. Donc voilà ce que c'est, pour la population, des féministes. Donc elles sont vues comme des vieilles filles, pas très jolies, et surtout, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la légende, qui nous dit que finalement, si elles sont féministes, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé de mari. Voilà, tout simplement. C'est des choses qu'on peut encore entendre hein, aujourd'hui dans certains discours. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas typiquement français cet antiféministe. On trouve exactement la même chose du côté des Anglais. Hein. Les suffragettes, ce sont celles qui n'ont jamais été embrassées. Alors, on a vu les moyens d'action. Mais les féministes et les suffragettes vont aussi, comme support pour leurs messages et pour leurs revendications, créer des journaux. Le plus célèbre, c'est La Fronde. La qualité n'est pas géniale, j'en suis désolée, mais vous avez une réunion de travail de La Fronde. La Fronde, ça a été fondée par Marguerite Durand, grande féministe. On dit qu'elle aurait vendu ses colliers de perles pour financer le journal, puisque c'était aussi une grande bourgeoise, vous pouvez le voir à la tenue. Alors, ce journal exprime les aspirations identitaires du féminisme radical, et c'est l'idéal. L'idéal est celui d'une femme moderne, active, indépendante financièrement, sportive et cultivée, l'égale de l'homme. Toute l'équipe est féminine. La plus célèbre, c'est Séverine. C'est la première femme journaliste à vivre entièrement de ses chroniques. On va avoir aussi Mathilde Méliot, journaliste économiste. C'est la première femme à rentrer dans le monde de la bourse, par exemple. Autre journal, La Française, aussi. Alors, on a une multitude de titres à cette époque-là qui se vendent plutôt bien. Par exemple, La Fronde était tirée à 200 000 exemplaires, ce qui est important pour l'époque. Alors, parallèlement à cette conquête des droits civiques, les femmes vont peu à peu pénétrer dans le monde des hommes. Et c'est notamment grâce à l'école. 1850, on ouvre les écoles primaires pour filles. Ça veut dire qu'avant 1850, les filles ne sont pas obligées d'aller à l'école primaire, ne sont pas obligées d'apprendre à lire et à écrire et à compter. 1867, ouverture des lycées privés pour filles. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes matières que dans les lycées pour garçons. Hein ? On enlève les matières scientifiques, le latin et le grec, et comme ça, elles ne peuvent pas passer le bac. On va avoir quand même des pionnières. Julie Daubier est la première femme à avoir son bac. À quel âge, à votre avis ? 37 ans. 37 ans. En fait, elle a passé son bac en candidate libre. Elle a appris toute seule les matières qui lui manquaient. Voilà. Alors, c'est en 1880, avec la loi Camille C, que les lycées publics ouvrent pour les filles. Et là aussi, pas de grec, pas de philosophie, très peu de sciences. Ainsi, on évite qu'elles passent leur baccalauréat et qu'elles se présentent dans les universités. Et il faudra attendre 1924 pour qu'il y ait des programmes identiques pour les filles et les garçons. Attention, les filles ont en plus comme matière économie domestique. Hein ? On va les élever pour être des bonnes mères, quand même. Alors, cette image-là, moi, je l'adore. On va l'analyser un petit peu. Où sont les filles ? En bas ? Assises par terre. Où où sont les hommes?
En haut.
Debout. Ceux-là, ils sont assis. Voilà. Les trois quarts, ils sont debout. On a ici deux femmes enseignantes. Hein. Voilà. Alors, ce qui est très amusant, c'est que elles ont un look d'élèves, là?
Non.
Non? On dirait quoi, plutôt? Oui, ça fait uniforme, ça? Oui, ça fait presque des robes de première communiante ou de jeune mariée, hein? Moi, je trouve, avec le petit bouquet, là. Alors, à partir du moment qu'elles peuvent passer le bac, les filles, elles peuvent aller à l'université. Sauf que l'université, ils n'ont pas trop envie que les filles arrivent. Donc, les premières femmes qui s'inscrivent à l'université, elles sont victimes de bizutage. On les siffle dans les amphis. Certains professeurs quittent l'amphithéâtre lorsqu'elles arrivent, par exemple. Mais elles y rentrent. Et vous avez ici l'image une photographie des lauréates du concours général de la Sorbonne. La Sorbonne est une des universités les plus prestigieuses de France. Et là aussi, je trouve ça intéressant à regarder, à analyser. Qu'est-ce qu'elles ont mis au premier plan, ces filles-là, les livres? Parce qu'elles veulent montrer quoi? Voilà. Qu'elles lisent, qu'elles sont là pour étudier. Et elles se placent derrière les piles de livres. Alors si, mine de rien, elles nous délivrent un message. Par contre, on trouve beaucoup d'écoles d'infirmières, de dactylos. Dactylo, c'était pour apprendre à taper à la machine à écrire. D'institutrices. Parce que ce sont des métiers que l'on rattache à l'univers des femmes. Et oui, éduquer, soigner, prendre soin des autres, être secrétaire, tout ça, ça met pas à mal le monde des hommes. Néanmoins, les femmes vont aussi conquérir des droits dans le monde du travail. Il va falloir attendre 1881 pour qu'elles puissent ouvrir un livret de caisse d'épargne sans l'autorisation de leur mari. Et 1907 pour qu'elles puissent disposer librement de leur salaire. Avant, la femme remettait son salaire à son mari ou le patron payait directement le mari pour l'ouvrière. Par contre, elles peuvent disposer de leur salaire librement, mais le mari peut toujours s'opposer à ce qu'elles travaillent. Les femmes vont faire de très grosses grèves. Et les grèves féminines et d'ouvrières sont souvent très dures. Elles durent généralement une centaine de jours. À chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais régulièrement, ce sont des grèves pour des problèmes de harcèlement. Une grève à Limoges, des ouvrières de 1905 portent là-dessus. Et ces ouvrières-là, elles avaient inventé une petite chanson. Je ne vais pas vous la chanter parce que je n'ai pas ces qualités-là, mais je vais au moins vous lire les deux premières phrases de leur chanson. Quand une fille vient demander du travail pour turbiner, ça veut dire, c'est l'argot de l'époque, ça veut dire pour taffer, hein, avant de demander son nom, il lui faut toucher ses nichons. Voilà. Donc ça, c'était la petite chanson qu'elle chantait sur les barricades. Ça veut bien dire que dans cette usine-là, si tu voulais du travail, ben, il fallait aller voir le contremaître. Voilà. Alors, la Première Guerre mondiale permet aux femmes, parce que tous les hommes sont partis au front, permet aux femmes d'ouvrir d'autres métiers et d'être de plus en plus visibles dans la sphère publique. Mais on a très très peur d'une inversion des rôles. Et c'est ce qu'on voit sur cette caricature-là. La femme est en bleu de travail, l'homme a les courses et du côté des enfants. Je crois que j'en ai une autre un peu comme ça, exactement, voilà. La femme travaille, donc elle rentre, elle lit le journal, et pendant ce temps, c'est monsieur qui fait la lessive. Alors, l'entrée des femmes dans le monde du travail est lente, est très lente, mais l'entrée des femmes dans les milieux et dans les syndicats est aussi très lente et difficile. Pourquoi ? Parce que le syndicalisme français est très marqué par Proudhon. Et Proudhon, c'est plutôt quelqu'un qui était très misogyne. Donc c'est difficile dans ce milieu-là. Et il y a une affaire qui montre bien cette difficulté. C'est l'affaire Couriot. On est en 1912, à Lyon, chez les imprimeurs. Emma Couriot veut se syndiquer. Elle envoie donc sa cotisation à son syndicat d'imprimeurs. Le syndicat renvoie une lettre à son mari, lui disant que c'est scandaleux que non seulement sa femme veut se syndiquer, qu'il aurait dû lui interdire, mais qu'en plus sa femme travaille. Donc là aussi, il va falloir attendre très longtemps, et 1920, pour que les femmes puissent se syndiquer sans l'autorisation de son mari. Tout doucement aussi, les femmes vont un petit peu libérer leur corps. Alors, ce corps va se libérer notamment grâce aux pantalons. Voilà. Et c'est un petit peu la mode de la garçonne. Ces femmes avec les cheveux très, très courts, qui fumaient, qui buvaient, qui allaient danser, qui vont un petit peu permettre la libération du corps. Parce qu'avant la garçonne, le corps des femmes, il était pris dans le corset. Vous avez ici Mademoiselle Polaire, qui était une danseuse très connue. Mademoiselle Polaire avait une taille de 33 cm. Elle en est morte, hein. Ses côtes ont perforé son foie un jour où elle a trop serré son corset. Donc dès 1909, les médecins vont formellement interdire le port du corset. C'est aussi la pratique du sport en plein air qui va libérer les femmes, et notamment l'arrivée de la bicyclette, puisque grâce à la bicyclette, les femmes inventent la jupe culotte, ce qui est un petit peu plus pratique. Alors, en 1925, pour rester dans ces histoires de sport, le sport est obligatoire pour les filles dans les lycées. Mais attention, hein, c'est pas pour que les filles se sentent à l'aise avec leur corps. Non, c'est pour faire des corps féminins aptes à la maternité. Alors, je vous ai mis parce que je l'aime beaucoup. Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas une image des cours de sport de l'époque. C'est une image d'un club un petit peu de gymnastique artistique et rythmique. Voilà. Et là, vous voyez bien que le corps, il est libre. Hein. Alors, ce corps libre, il est possible parce qu'à l'époque aussi, on invente une nouvelle lingerie. C'est l'arrivée du soutien-gorge et de la culotte. Et ça aussi, ça va libérer les femmes. Elles n'ont plus à mettre le corset, le pantalon fendu, etc. Ça leur permet de changer leur tenue et d'être beaucoup plus à l'aise. Les femmes aussi vont se libérer des carcans sociaux. Le divorce a été autorisé pendant la Révolution française en 1792. Il est interdit en 1816. Il faudra attendre 1884 pour que le divorce soit de nouveau autorisé. Attention, ce n'est pas un divorce sur consentement mutuel. Pour qu'une femme obtienne le droit de divorcer, il faut qu'elle prouve que son mari l'a trompée sous son toit. Voilà. Si le mari la trompe au bordel, ben non, le divorce n'est pas recevable. Voilà. Par contre, une femme qui trompe son mari, à l'époque, c'est 5 ans d'emprisonnement. Double morale. Alors, au niveau un petit peu des questions de contraception, c'est véritablement le mouvement néo-malthusien qui va un petit peu s'intéresser et donner des conférences. Alors, ce sont des conférences faites par certaines féministes, comme Nelly Roussel, Gabrielle Petit, qui, elles, vont transmettre aux femmes ce qu'on appelait les funestes secrets, c'est-à-dire les méthodes de contraception un petit peu, alors comme la méthode Auginon, avec la température, le coït interrompu, etc., pour éviter qu'elles aient trop d'enfants. L'avortement est formellement interdit et il est condamné par la loi. 1920, il est condamné par les assises. 1923, il va relever de la correctionnelle parce qu'on s'aperçoit qu'en correctionnelle, les juges sont beaucoup plus sévères que les jurés d'assises. Alors, ce mouvement néo-malthusien qui parle un petit peu de contraception, d'avortement, etc., il est formellement interdit parce qu'il est considéré comme de la pornographie. Mais c'est aussi... Ah, j'ai oublié de vous montrer les premiers maillots de bain. Alors, je reviens sur les premiers maillots de bain. Voilà. Et j'arrive. C'est aussi cette période-là, la naissance des premiers clubs homosexuels, des premiers clubs lesbiens. Ici, vous êtes au Monocle, rue Edgar Quinet, vers Montparnasse. Et c'est un club réservé aux femmes. Donc là, vous avez des femmes déguisées en hommes, hein, mais ce sont toutes des femmes. Hein. D'accord ? Alors, on arrive un petit peu à notre entracte, le droit de vote et le deuxième sexe. Alors, droit de vote, 21 avril 1944, Charles de Gaulle accorde le droit de vote aux femmes en récompense de leur effort de guerre. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, moi, je la raconte parce qu'elle me fait rire. C'est que beaucoup de femmes se sont engagées pendant dans les réseaux de résistance. Donc, elles ont appris à manier les armes. Donc, vu qu'on avait vu qu'en 1936, leur action devenait de plus en plus radicale, peut-être qu'ils se sont dit que là, c'était le moment de l'accorder, ce droit de vote. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsqu'elles votent pour la première fois en avril 1945, cela ne fait pas du tout la une des journaux. Parce que la France, après la Seconde Guerre mondiale, est encore dans une période très difficile, avec des pénuries. Et donc, les journaux se centrent plus sur les pénuries, les difficultés de la vie quotidienne, que sur le droit de vote des femmes. C'est un tout petit peu plus tard, en 1949, qu'est publié l'ouvrage fondateur du féminisme français par Simone de Beauvoir. Et cet ouvrage, c'est... Le deuxième sexe. Cet ouvrage, à l'époque, il fait véritablement scandale parce qu'on est à une période en France où on est vraiment tourné vers la famille, la sphère domestique, etc. Et cet ouvrage va faire scandale parce qu'elle aborde des sujets tabous comme les règles, les grossesses, l'homosexualité. Elle est une des premières à parler de la sexualité comme un facteur émancipateur pour les femmes. Et un de ces grands concepts à Simone de Beauvoir, c'est cette idée-là, on ne naît pas femme, on le devient. Et j'aimerais un petit peu l'expliquer. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut pouvoir dire? On ne naît pas femme, on le devient. Non? Alors, ça veut dire, pour Simone de Beauvoir, que c'est pas parce que tu es du sexe femelle qu'obligatoirement, tu vas avoir des qualités féminines. Le féminin est une construction pour Simone de Beauvoir. C'est une construction de l'éducation, de la société, des rencontres, du travail, etc. Voilà. Il n'y a pas de qualité naturelle féminine. Simone de Beauvoir, c'est aussi une des premières à récuser l'idée d'instinct maternel. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est une bonne mère. On a le droit de ne pas être à l'aise avec des enfants, de ne pas être obligatoirement une bonne mère. Et donc, vous comprenez évidemment pourquoi ce livre a fait scandale à l'époque. Alors, tout doucement, on arrive aux années 60. Alors, à partir des années 60, la condition des femmes devient de plus en plus un objet d'étude et de débat. En littérature, mais surtout dans les travaux des sociologues de l'époque. Pendant mai 68, beaucoup de femmes ont lutté, beaucoup d'étudiantes ont pris part aux manifestations, aux occupations de fac, etc. Et ces étudiantes, elles vont commencer à soulever un problème. Qui est-ce qui nettoie l'amphithéâtre qui vient d'être occupé? Les étudiantes. Qui est-ce qui garde les enfants pendant que les étudiants vont aux manifestations? Les étudiantes. Et elles vont commencer à discuter entre elles et se rencontrer, faire des petites réunions, etc. Et puis, tout doucement, elles arrivent à une idée que le privé est aussi politique. C'est-à-dire que ta vie personnelle, elle n'est pas indépendante des conditions sociales, historiques, mais surtout des mentalités acceptées et véhiculé par la société. Été 70, on a l'événement fondateur du MLF. Et cet événement fondateur, c'est cette action où un petit groupe de féministes vont aller déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Avec cette banderole, il y a plus inconnu que le soldat, sa femme. Donc ça veut dire que pour elle, les femmes sont les grandes oubliées de l'histoire de la société. Alors, cette action-là, elles le font en soutien aux féministes américaines qui fêtent les 50 ans du suffrage des femmes aux États-Unis. Alors, évidemment, elles vont se faire arrêter, embarquer, mises en garde à vue. Et là, elles vont utiliser une technique que de très nombreuses féministes vont utiliser dans ces années-là, c'est-à-dire qu'elles vont jouer aux filles une fois qu'elles sont en garde à vue. Elles vont demander d'aller faire pipi toutes les 5 minutes, d'aller boire, elles vont rigoler, parler beaucoup, etc. Donc généralement, les policiers craquent et les relâchent et elles n'en seront jamais condamnées. Voilà. Alors, ces féministes, tout comme les suffragettes, vont utiliser les journaux pour faire passer leurs idées. Et le titre le plus connu, c'est « Le torchon brûle ». Pourquoi le torchon brûle ? Le torchon, c'est quoi ? Oui, c'est le symbole de la femme à la maison. Donc « brûle », ça veut dire « ras-le-bol ». Voilà. Alors, elles sont très provocatrices, hein, vous voyez ? Donc, la putain, la salope, etc. Là, tout ça, elles reprennent tous les stéréotypes, les clichés qu'on a sur les femmes. Alors, ce journal-là, c'est assez libre. Alors, je vous ai mis d'autres affiches. Alors, ici, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une sorte de Shiva avec un poulet, l'enfant, le balai, avec tout ce que doivent faire les femmes. Là, vous avez le symbole femelle. Et ce geste-là, peut-être vous le verrez de temps en temps en manifestation. Ce geste-là, c'est le symbole des féministes. C'est le geste des féministes et ça représente le vagin, tout simplement, le sexe féminin. Voilà. Donc, tout comme certains gauchistes lèvent le poing dans les manifestations, les féministes font ce symbole-là. Alors, pour ces numéros, il ne va y pas en avoir beaucoup, il ne va y en avoir que 6. Alors, petit clin d'œil aussi, hein, menstruel. Parce que les parutions ne sont pas très régulières. Voilà. Et elles travaillent un petit peu comme elles en ont envie. Tu as envie de faire tel article, ben tu fais tel article. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire d'article, t'en fais pas. Donc, l'équipe change sans arrêt. Elles signent uniquement de leur prénom, pas de leur nom de famille. Pourquoi, à votre avis ?
Parce qu'elles ne veulent pas être dépendantes de leur mari.
Très bien, voilà. Parce qu'elles ne veulent pas, elles veulent s'affranchir de cette dépendance maritale. Alors là, vous avez par exemple, elles sont en train de travailler. Alors, des fois, tout n'était pas tapé à la machine. Hein. Il y avait des dessins faits à la main, des poèmes, c'était très libre. Et vous les voyez là, en train de le vendre. Donc là, c'est Monique Wedding et sa sœur, ces deux grandes féministes. On va les retrouver. Monique Wedding, elle est écrivaine. Hein. Vous pouvez lire ses ouvrages. Et donc, elles vendent ça dans les halls de fac, dans certains locaux, dans la rue. Voilà. Alors, ce journal-là, il sera interdit hein, en 1973 pour outrage aux bonnes mœurs parce qu'elles avaient publié une photo de sexe féminin avec ce titre « Le pouvoir du con ». Parce que le con, avant d'être une insulte, c'est un mot d'argot qui désignait le sexe des femmes au XVIIIe siècle. Voilà. Alors, elles ont un côté très artistique et vont jouer sur toute la contre-culture qui se développe à l'époque. Ici, vous avez une affiche féministe qui fait beaucoup penser aux affiches produites par les Beaux-Arts pendant mai 68, en sérigraphie. Et là, vous avez une affiche qui fait très pop art Warhol. Tout comme cette première de couverture qui fait très art psychédélique des années 60. Hein. Voilà. Et donc, ça aussi, ça plaît, ça attire à l'époque. Alors, vraiment, leur revendication principale, c'est celle-ci. « Mon corps m'appartient », avec ce slogan « Un enfant, si je veux, quand je veux ». 1975, la maternité heureuse devient le mouvement français pour le planning familial. Et eux, ils s'organisent pour faire des voyages, pour amener les femmes en Angleterre ou en Hollande pour avorter, puisque l'avortement est toujours interdit en France. 1967, la pilule est autorisée en France. Parallèlement à cela, très vite, dès les années 70, on assiste à la constitution d'associations anti-avortement qui sont rattachées à des groupes d'extrême droite comme Occident. Cette association-là s'appelle « Laissez-les vivre » et le directeur est un professeur, un médecin, Monsieur Lejeune. Ils sont extrêmement violents. Souvent, ils font des rafles dans les lycées, etc., pour frapper les féministes, les gauchistes, etc. Voilà. Et donc là, c'est une affiche du Parti Socialiste de l'époque qui pose la question « Laissez-les vivre ». Voilà. L'État, la police, les médecins qui refusent aux femmes le droit de disposer de leur corps, ont-ils le droit ? Voilà. Elle est un petit peu provocatrice, et donc je souhaitais la mettre. Alors, le 5 avril 1971, 343 femmes signent le manifeste dans lequel elles reconnaissent s'être fait avorter alors que c'est illégal. Et dedans, on a des grands noms de l'époque, comme Catherine Deneuve, par exemple, et d'autres. Ce manifeste, il sera appelé le manifeste des 343 salopes. Vous comprenez bien pourquoi. Alors, très rapidement, d'autres associations sont créées pour lutter pour le droit à l'avortement. Et c'est notamment l'association Choisir, fondée par Gisèle Halimi, qui va particulièrement œuvrer dans ce sens-là. Gisèle Halimi, elle est avocate et elle va défendre le 20 novembre 1971 Marie-Claire Chevalier, que vous avez là. Marie-Claire Chevalier, elle est accusée d'avoir avorté. Elle a avorté, aidée de sa maman, parce qu'elle avait été violée. Voilà. Et pour la première fois, les féministes vont remporter le procès. Donc tout doucement, on commence à gagner du terrain. D'autres associations sont créées, comme le MLAC. Le MLAC, elles sont assez radicales, hein, vous pouvez le voir. Donc là, on a un groupe de femmes prêtes à caillasser un juge, un médecin et un policier pour accéder à l'hôpital pour avorter. Voilà. On va beaucoup jouer sur le bonheur de l'enfant, avec des affiches, c'est quand même plus chouette d'être désiré, etc. 1974, Simone Veil défend à l'Assemblée nationale une loi pour la liberté d'avorter. Cette allocution, elle va être très très difficile hein, pour Simone Veil. Vous pouvez tout à fait écouter son discours, vous le trouvez sur le site de l'INA. Pendant tout son discours, elle va être sifflée par les députés. On va lui jeter des boulettes de papier. Hein? Je crois qu'à l'automne dernier, il y a bien un député qui a caqueté pendant qu'une femme députée. Donc vous voyez, finalement, il y a encore beaucoup de travail. Simone Veil, pendant qu'elle lit son long discours très poignant, dehors, il y a plus de 5000 femmes qui manifestent pour la soutenir et elles vont manifester toute la nuit. La loi sera adoptée en 1975 pour une période de 5 ans, délai de 10 semaines sous contrôle médical. Il faudra attendre 1979 pour qu'elle soit définitivement adoptée et 1982 pour que l'acte soit remboursé par la Sécurité sociale. L'acte peut être et aujourd'hui remboursé par la Sécurité sociale grâce à la ministre des Droits des Femmes qui est à l'époque Yvette Roudy. Alors j'ai eu la chance en décembre 2012 pour un colloque à l'université du Mirail qui fêtait les 40 ans de recherche en féminisme de rencontrer Yvette Roudy. Et elle nous a raconté en aparté comment ça s'est passé pour faire voter cette loi. Nous a dit, c'est très simple. On s'était débrouillé pour que dans le texte, le mot avortement n'apparaisse pas. Voilà. On a attendu les vacances de Noël. Que tout le monde soit pris en famille, les repas, etc. Le 20 décembre, on l'appelle, on lui dit c'est le moment, elle arrive, elle fait voter la loi. Et voilà. C'était la petite. Alors, parallèlement à ça, les femmes vont lutter aussi contre les violences faites aux femmes, avec notamment la question du viol, d'accord, mais aussi la publicité sexiste. Le mouvement lesbien, là aussi, devient de plus en plus visible. En effet, en printemps 1971, un groupe de féministes perturbe l'émission de Ménie Grégoire intitulée « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Et les féministes vont lui répondre « Il n'y a pas de problème lesbien ni homosexuel, il y a seulement un problème hétérosexuel ». Voilà. Alors sur cette petite photo, on les voit sortir de l'action. Ici, vous avez Christine Delphi. Ici, Monique Wedding. Et ici, Antoinette Foulk, qui nous a quittés hein, en février dernier. Voilà. Elles vont aussi... Alors, elles ont des super slogans. Hein, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, par exemple. Une femme sur deux est homosexuelle, l'autre est lesbienne. Ou, mieux que la capote anglaise, la lesbienne française. Voilà. Alors, il faudra... parallèlement à ça, les femmes revendiquent aussi le plaisir féminin, notamment avec ce slogan, moi, que j'aime beaucoup. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. En gros, les femmes peuvent très bien se donner du plaisir sans les messieurs. Puisque c'est l'époque où les femmes vont redécouvrir un des organes sexuels, hein, le clitoris, en fait. Et elles vont lutter aussi contre le mythe de la frigidité, de l'orgasme uniquement vaginal, etc. Et surtout le mythe du consentement. Elle dit non, mais en fait, elle veut dire oui. Non, quand c'est non, c'est non. Voilà. Les femmes continuent aussi de rentrer dans le monde des hommes. Alors ici, c'est pas du tout... J'ai essayé de mettre des affiches françaises et des images françaises. Là, j'ai choisi une affiche espagnole. Parce que j'ai envie qu'on pense aussi aux Espagnols en ce moment, qui sont en train de perdre le droit à l'avortement. Voilà. Et puis en plus, j'aime beaucoup cette affiche-là qui est faite qu'avec des têtes de femmes. Alors, les femmes vont lutter contre la double journée de travail, c'est-à-dire la journée salariale et la journée, enfin, le travail, les tâches domestiques. Je vous ai mis un petit tract, moi, que j'adore et que je vais vous lire. 1. Se lever les premières, biberon, couche. 2. Leur faire le petit déjeuner. 3. Faire la vaisselle du petit déjeuner. 4. Habiller et amener les enfants à l'école. 5. Faire les courses pour le repas, biberon, couche. 6. Faire le ménage. 7. Préparer le déjeuner. 8. Les faire manger, faire leur vaisselle. Je peux pas mettre pause. Non. Faire la vaisselle. Repasser, raccommoder, faire les vitres, écurer, brosser, pousser, cirer, biberon, couche. 11. Les attendre. 12. Se faire une beauté pour eux. 13. Préparer le repas du soir. 14. Les servir, biberon, couche. 15. Laver leur vaisselle. 16. Préparer tout pour le lendemain. 17. Se coucher et être à sa disposition. Donc ça veut dire, hein, si monsieur vieux veut et que toi t'as pas trop envie, t'y vas quand même. Hein. 70 heures. On n'appelle pas ça du travail. Ils nous disent que nous ne gagnons pas notre vie. Nous sommes juste nourris, logés et encore, il faut dire merci. Si nous travaillons dehors, c'est tout ça, plus 8 heures de travail par jour, plus cavaler dans le métro pour faire les courses avant la fermeture. Nous, 110 heures. Eux, 48 heures de travail par semaine. Ils nous disent que nous gagnons un salaire d'appoint. Si c'est ça l'amour, si c'est ça la famille, changeons-les. L'amour ne doit pas être l'esclavage. Voilà. Moi, je le trouve très percutant. Alors, elles vont beaucoup s'interroger sur le rôle et la place des mères. Notamment avec cette petite action, c'est une manifestation qu'elles ont faite pour la fête des mères. L'une s'est déguisée en maman, toutes les autres en petite fille, et elles vont perturber Paris toute la journée puisqu'elles se baladent comme ça partout en se donnant toute la main. Elles vont aussi s'interroger et réfléchir à l'enfant, à l'éducation différentielle fille-garçon. Elles vont dénoncer les conditionnements sociaux dès la petite enfance, notamment avec cet ouvrage qui paraît dans ces années-là, du côté des petites filles. Et c'est à cette époque-là qu'à l'école aussi, on réfléchit à la sélection sexiste, par exemple. Alors, les derniers bastions de l'éducation et du monde du travail s'ouvrent aux femmes. On va avoir les premières femmes qui rentrent à l'école polytechnique, au Collège de France... 74, mixité de tous les concours de la fonction publique. 75, L'école est mixte, enfin. Les femmes vont essayer aussi de se rendre visibles dans la sphère publique et surtout politique. 1974, Arlette Laguiller est la première femme à se présenter à une élection présidentielle avec ce slogan qui veut tout dire. Eh bien oui, je suis une femme et je me présente à cette république d'hommes. Les femmes et notamment les étudiantes dans les universités vont s'attacher à écrire l'histoire des femmes, publier, monter des maisons d'édition féministes comme les maisons d'édition et la librairie des femmes. Alors, elle est à Paris. Cette librairie sera incendiée assez régulièrement par des groupuscules d'extrême droite. Et surtout, on va avoir les premiers ouvrages d'histoire des femmes pour combler un petit peu ce vide. Alors, on arrive à nos années 90-2014. Dans les années 90, on va enfin autoriser la publicité pour la contraception et le préservatif. C'est aussi à cette période-là que le viol conjugal va être enfin reconnu, que le harcèlement sexuel au travail est reconnu comme un délit pénal et que le viol en temps de guerre peut être considéré comme un crime contre l'humanité. Et c'est notamment le conflit en Yougoslavie et le conflit au Rwanda, où les femmes ont été systématiquement violées, qui vont permettre ces avancées-là. Alors, dans les années 90, on a quelques groupes encore féministes, comme les chiennes de garde, mixité, etc. Une date importante, 2000, loi sur la parité homme-femme en politique. Aujourd'hui encore, je pense qu'il faut être vigilant, notamment sur les questions de la répartition des tâches. Regardez, c'est les chiffres de 2012. Enfin, l'enquête a été réalisée en 2010 et le livre est paru en 2012. Les femmes font toujours 4 heures de tâches domestiques par jour contre 2h13 pour ces messieurs. Alors, aujourd'hui, on a toujours encore de nombreuses campagnes pour sensibiliser à ces questions-là. Celle-là, je l'aime particulièrement. Merci pour les fleurs, mon cœur, mais passe plutôt l'aspirateur. Voilà. On a encore beaucoup, je crois, de choses à gagner dans le monde du travail. Ça, c'est la campagne de 2013. Les femmes, on continue à s'asseoir dessus ou on change pour de bon? Puisqu'il faut savoir qu'en France, de manière générale, pour le privé, une femme gagne 25% de moins qu'un homme. Encore aujourd'hui. Et on a encore ce qu'on appelle le plafond de verre, et maintenant on parle même de paroi de verre. C'est-à-dire que pour le même diplôme, les femmes ont beaucoup plus de mal à monter dans une entreprise, par exemple, ou changer de formation ou d'orientation professionnelle. La question des violences et encore d'actualité avec ces deux campagnes, hein, Je t'abîme et la question du viol. J'aimerais vous montrer, tout comme le Nouvel Observateur avait publié en 1971 le manifeste des 343 femmes reconnaissant s'être fait avorter, l'année dernière, le Nouvel Observateur a publié un manifeste où un certain nombre de femmes reconnaissent s'être fait violer. Et dans ces femmes, on trouve là aussi des noms importants comme Clémentine Autain, Madame de Villepin, par exemple, etc. Alors, c'est aussi dans les années 90 que va naître le mouvement queer, qui est une sorte de troisième féminisme, où dans le mouvement queer, ça vient des États-Unis, on part du principe qu'il n'y a plus d'identité sexuée et sexuelle et qu'on peut jouer avec tout. Alors, je pourrais revenir sur le mouvement queer, hein, si vous le souhaitez. Alors, on a encore aujourd'hui des débats sur les questions du voile, des mères porteuses, etc. Moi, je trouve que de plus en plus, on a un retour des mouvements anti-avortement, anti-féministes, notamment avec l'apparition en France de certains groupes masculinistes, comme au Québec. Ces groupes-là sont pour que les hommes retrouvent une place dominante dans la société. On en a un très bon représentant en France qui s'appelle Éric Zemmour, hein, pour ne pas le citer. Voilà. Par contre, on a aussi de nouveaux groupes féministes qui s'inscrivent totalement dans l'héritage des suffragettes et du MLF. Alors moi, j'en ai choisi un parce que je les aime particulièrement. C'est le groupe La Barbe. La Barbe, voilà, c'est un groupe de femmes qui vient dans les assemblées, dans les musées, dans tous les lieux publics où on ne trouve que des hommes, mais elles portent des barbes en espérant se faire accepter ainsi. Donc elles ont fait, là c'est une action à l'Assemblée Générale d'Air France avec, voilà, tandis que les virils pilotes d'Air France tiennent d'une phalange experte le manche à balai, dans les cockpits comme à la direction, les femmes font virevolter les aspirateurs sur les moquettes des carlingues sous les pieds des hommes d'affaires en complet veston. Et je terminerai sur La Barbe et sur une de leurs affiches qui montre qu'on a encore beaucoup de choses à gagner. Celle-ci, égalité, virilité, fraternité, La Barbe. Voilà. Et je terminerai sur quelques chiffres. Alors, en France, on estime à un viol toutes les 8 minutes. Tous les 3 jours, une femme décède suite au coup de son conjoint. Et au niveau du salaire, 25% de moins, 4 heures de ménage pour les femmes contre 2 heures pour ces messieurs. Voilà. Et je terminerai là-dessus.
C'était Urgence, Urgence pour les droits, Urgence pour les libertés, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, diffusée chaque dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. C'est une émission que vous pourrez réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et rendez-vous le mois prochain.
Il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos.
Émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Il y a des rodéos. Et les cadres sociaux, y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne, y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié, y'a les femmes seules et les prisonniers, y'a les infirmières et les gars du chantier, y'a les ouf, les ouaves, les toqués-toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici-bas, où y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche et les Casvilles.